Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Depuis quelques années, la question de l'immigration marque fortement le débat public et occupe une grande place dans l'espace médiatique. Elle détermine beaucoup de déclarations de responsables politiques, beaucoup plus d'ailleurs, qu'elle ne figure parmi les sujets qui préoccupent les Français. Une étude d'opinion réalisée en septembre par Ipsos pour le rapport annuel sur l'état de la France du Conseil économique, social et environnemental montre que l'immigration n'est qu'au 8e rang après la santé, le pouvoir d'achat, la situation économique, la situation politique, l'environnement, les inégalités sociales et la sécurité des biens et des personnes. Seulement 18 personnes parmi celles qui ont été interrogées, moins d'un Français sur cinq pointe l'immigration. Toutefois, on le sait bien, l'accueil, d'une part, et l'intégration, d'autre part, des personnes migrantes ou réfugiées est une question majeure dans la société française. Pour en parler, de manière à la fois quotidiennement concrète et globalement éclairante, j'ai invité deux représentantes de la CIMAD, une des principales associations sans lesquelles la situation des migrants serait encore plus difficile. Nicole Chastanier, Marie Moretto, merci d'être venue au micro de Divergence FM. Alors, l'actualité nous a conduit à nous tourner vers vous. La 15e édition du festival Migrants Scène aura lieu prochainement, notamment avec une soirée festive le 22 novembre à la Tropisme. Nous y reviendrons en fin d'émission. Alors, Nicole Santernier, vous êtes une ancienne journaliste et parmi les nombreux bénévoles engagés au sein de la CIMAD. Nous en parlerons. Vous co-présidez avec Thierry Lerche le groupe local de Montpellier. Marie Moretto, vous êtes salariée de la CIMAD, forte du Master 2 Droit international et humanitaire, obtenu à l'Université d'Aix-en-Marseille. Vous avez travaillé depuis 13 ans à la CIMAD, après avoir œuvré au CADA, au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Béziers, puis travaillé pour la mission bidonville de la CIMAD, pardon. Vous êtes depuis fin 2023 délégué national pour la région, c'est comme ça que ça s'appelle, en fait la région Languedoc-Roussillon. Avant de nous faire découvrir la CIMAD, racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Nicole Chastanier, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement? Faites-nous profiter de votre connaissance de notre ville.
Alors moi, je suis arrivée à Montpellier il y a 50 ans. Et donc, j'ai eu plusieurs vies à Montpellier. Et dans chaque vie, j'ai eu des lieux différents. J'ai fait mes études à l'Université Paul Valéry. J'habitais au Petit Bar. Donc après, j'ai habité au centre-ville. Maintenant, j'habite un peu à l'extérieur. Donc c'est une ville à laquelle je suis très attachée, bien que nimoise d'origine, ce qui est quand même...
C'est presque un handicap. Hein.
et depuis que je suis à la retraite, c'est une ville que je redécouvre parce que c'est une ville qui est très belle, en fait. C'est vraiment très beau quand on a le temps de s'y promener. J'ai eu l'occasion de la faire visiter. Je n'avais jamais fait ça à des amis belges. Et des choses qui m'ont frappée, notamment, je suis allée visiter la faculté de médecine à côté de la cathédrale. C'est très, très beau. C'est beau.
Un très beau bâtiment.
C'est un beau bâtiment. Et puis, il y a encore des étudiants. Enfin, j'ai trouvé ça très beau. Et la dernière chose que j'ai découverte à Montpellier, c'est les Jardins de la Reine. Je ne connaissais pas. C'est à côté des...
Alors, c'est pas très loin du Pérou, là. Hein. Donc, ça donne sur la rue Pitot, à l'angle de la rue Pitot et de la rue de la Reine.
C'est un jardin botanique. C'est le premier jardin botanique de France. C'est
géré
très beau.
Géré par une association très active.
Voilà. Et franchement, ça vaut le coup de s'y promener.
Voilà. Petite découverte
Et on découvre toujours des choses à Montpellier.
Marie Moretto, même question.
Alors moi, je suis arrivée à Montpellier il y a 13 ans, en même temps qu'à la CIMAD, en fait. Donc, je suis arrivée pour le travail et je suis arrivée dans le quartier de la Méditerranée. Et c'est un quartier que j'aime beaucoup, où il y a une vraie dynamique de quartier avec une association qui s'appelle Mare Nostrum, qui fait un très beau travail dans ce quartier-là. Et puis récemment, j'ai découvert un lieu que j'aime aussi beaucoup, qui est notre lieu de travail, à Nicole et moi, qui est à la Baie de l'Épée. Rue Abbé de l'Épée, l'ancien bâtiment, c'est un bâtiment du rectorat.
Voilà, c'est pas très loin du Crous, sauf erreur.
C'est ça, c'était l'école normale supérieure, c'est bien ça. Et donc c'est un bâtiment qui est vacant depuis des années et qui a été confié à la Croix-Rouge. Et aujourd'hui, ils accueillent plusieurs associations, dont nous, temporairement, puisqu'on doit récupérer nos locaux un peu plus loin. Et je trouve que c'est assez intéressant de se dire qu'il y a des lieux vacants, très grands, très beaux à Montpellier, et on peut en faire quelque chose d'intéressant et d'utile. Voilà.
Très bien. Alors maintenant, on va découvrir plus avant la CIMAD. Il y a belle lurette que CIMAD ne signifie plus, comme à sa création en 1939, Comité Intermouvement auprès des évacués. Mais en quelques mots, Nicole Sastanier, dites-nous quelle a été la trajectoire de la CIMAD pendant ces 85 ans. Qu'est-ce qu'il faut retenir, je dirais, de ce parcours associatif et humanitaire et d'engagement ?
Déjà, la CIMAD donc a été créée en 1939, au moment où la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Et il y avait en Allemagne déjà des pasteurs, puisque la CIMAD, au départ, a été portée par des protestants qui avaient alerté sur le danger que représentait Hitler. Et voilà. Et donc, au moment où la France a déclaré la guerre, il y a un certain nombre de villages alsaciens qui ont été déplacés. C'est pour ça que la CIMAD, c'est les déplacés. Ah, mais c'était des Français. Des Français qui ont été déplacés dans le sud, notamment dans l'Aude, etc. Et qui avaient des difficultés pour s'intégrer. Et donc, la CIMAD, les protestants ont envoyé des scouts.
Pour les accompagner.
Ensuite, il y a eu la guerre. Et donc là, la CIMAD s'est développée à un sens beaucoup plus militant. La CIMAD a aidé à traverser, à faire fuir les gens, a fait des faux papiers, a aidé à cacher les juifs. Ensuite, ça a démarré comme ça. Et donc, c'était quand même très militant. Ensuite, il y a eu tout un travail avec les Algériens, d'aide aux Algériens qui étaient en France et puis ceux qui sont venus. Et donc, petit à petit, la CIMAD, a fait toute cette relation avec les étrangers qui arrivaient en France. Mais au départ, c'était pas ça, quoi. Et puis, il y a une époque où, pour aller un peu plus vite, la CIMAD s'est rendu compte que les étrangers avaient des difficultés d'intégration, notamment parce qu'ils ne connaissaient pas leurs droits, et que donc, il était important que... ils se fassent aider des gens. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, la CIMAD, tout le côté bénévole s'est développé, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même presque 2600, 3000 bénévoles sur toute la France. C'est énorme.
Donc une soixantaine à Montpellier, c'est ça ?
Oui, une soixantaine d'actifs. Il y a au moins une centaine d'adhérents sur Montpellier. Mais ce sont des gens qui se forment aux droits des étrangers et qui aident les étrangers à ce qu'on les respecte, à ce que leurs droits soient respectés, leur dignité soit respectée. Voilà, donc ça a été toute une époque... c'est tellement difficile de résumer
voilà,
85
idée,
ans.
Sûr, idée, en tout cas, il y a une espèce de continuité et une adaptation des problématiques différentes au fil des années liées à la place des étrangers et à leur intégration et au respect de leurs droits. Alors, Marie Morito, dans le prolongement de la question à laquelle Nicole a répondu, quels sont les grands types d'actions qu'aujourd'hui la CIMAD développe au plan national, et puis on regardera au plan local ce qui se passe.
Alors, au niveau national, y a l'accompagnement, ce que disait Nicole, donc l'information et l'accompagnement sur tout ce qui est le volet surtout juridique. On a aussi des missions d'hébergement, puisqu'on a plusieurs dispositifs d'hébergement. On fait aussi de la sensibilisation pour déconstruire les préjugés dont sont victimes les personnes migrantes.
On va essayer de le faire aujourd'hui.
Comment on va essayer de le faire, oui. On propose également des cours de français, des ateliers de français. Et puis, on a une vigilance, on fait du plaidoyer autour de tous les projets de loi qui sont nombreux sur cette thématique-là.
On en parlera plus tard, la contribution active de la CIMAD dans les débats touchant les étrangers. Alors, on a évoqué, Nicole Sastanier, les bénévoles. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Quel rôle jouent-ils ? Visiblement très important dans l'action de la CIMAD ici, au plan local à Montpellier.
En fait, la CIMAD a des représentants dans toute la France, puisque je disais tout à l'heure, on est entre 2600 au moins bénévoles. Et puis, il y a une partie de salariés qui sont aussi... C'est très important, la partie salariée à Paris, parce que ce sont eux qui font tous les plaidoyers dont parlait Marie, dont elle pourra reparler tout à l'heure, ou qui font toute la documentation qui nous permet à nous les bénévoles. Alors nous les bénévoles, ben, disons que essentiellement on est retraités, donc ce sont des gens qui ont décidé de donner un certain temps de leur retraite pour accompagner les étrangers dans ce travail de papier, de leur trouver...
Voilà. Tout ce qui concerne les procédures administratives, voilà, leur permettant de continuer à vivre en France, voilà, dans des conditions, je dirais, officielles, quoi, en tout cas.
Alors,
légales.
En fait, les bénévoles, c'est souvent... Ce sont des gens qui... Je vois, par exemple, dans le groupe des demandeurs d'asile, des gens du groupe qui s'occupent des demandeurs d'asile, ce sont souvent des gens qui ont eux-mêmes vécu à l'étranger.
Donc il y a une sensibilisation particulière.
Qui ont une sensibilisation particulière et qui connaissent les pays étrangers. Donc quand il y a des Africains qui viennent, ce sont des gens qu'ils ont rencontrés puisqu'eux-mêmes sont allés travailler ou ont vécu en Afrique. Donc il y a cet échange qui est important. Et voilà, il y a beaucoup de retraités, des gens...
Alors, Marie Moreto, je le dis, vous avez des responsabilités régionales, région Languedoc-Roussillon, donc au titre de la CIMADE, notamment à Sète, où Divergence FM est écoutée. Un mot, ce qui se passe à Sète, là, bon, que fait la CIMADE, comment est-elle organisée localement?
Alors, en région, il y a 8 groupes locaux, effectivement, donc il y a notamment un groupe à Sète. À Sète, c'est une organisation assez semblable aux 7 autres groupes, pardon. Donc, c'est de l'accompagnement dans des permanences juridiques. Il y a également des ateliers de français et un petit volet aussi de sensibilisation, comme on le disait, dans les milieux scolaires ou sur certains festivals, événements, etc. Après, dans notre région, on a aussi la particularité d'avoir plusieurs dispositifs. On a un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Béziers, où on héberge...
Qui est implanté à Béziers, implanté, mais qui est tourné vers des gens qui habitent au-delà, ça concerne des personnes qui ne sont pas toutes bitéroises.
Ah non,
j'imagine.
Non. Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est des orientations qui sont faites par l'OFI. Donc les demandeurs d'asile sont l'Office française de l'immigration et de l'intégration. Et donc c'est des personnes qui sont orientées, qui arrivent à la gare de Béziers et qui viennent de tous les coins du monde. Et donc qui sont hébergées le temps de leur demande d'asile. Et qui sont accompagnés donc par des salariés. Donc ça, c'est sur Béziers. On a plusieurs salariés. Et ce qui est intéressant à Béziers, c'est que ce lieu-là, il sert aussi au groupe local de Béziers, où il y a des bénévoles qui vont porter des actions. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut co-construire avec les résidents des actions très intéressantes pour que les Biterrois et les Biterroises viennent rencontrer les personnes qui sont hébergées, les demandeurs d'asile,
d'accord,
les personnes exilées.
Une contribution à l'intégration.
Complètement. Et puis, il y a une ouverture aussi sur le quartier, il y a une ouverture sur les habitants de Béziers, qui est très importante pour nous. On a également la mission Bidonville. Donc là, ça se passe à Montpellier. On a plusieurs travailleurs sociaux et chargés de projet qui accompagnent des personnes qui vivent sur les bidonvilles de Montpellier dans le cadre d'un contrat avec l'État, donc pour favoriser l'accès à l'emploi et au logement, etc. Et que, ben, en fin de compte, on n'arrive à plus avoir de bidonvilles à Montpellier. C'est l'objectif, hein, la résorption des bidonvilles. Et puis, on a un centre d'accès aussi aux soins psychiques, qui est le centre Frantz Fanon, qui est aussi sur Montpellier, où là, ce sont des psychologues qui accompagnent des personnes en demande d'asile ou en sortie de demande d'asile qui ont vécu des violences particulières tout au long de leur parcours d'exilés.
Voilà. Très bien. Alors, revenons sur le sujet que vous venez d'évoquer. Résumer, je dirais, ce que vivent ces personnes, quelles sont les principales difficultés qu'elles rencontrent. Vous les avez évoquées, mais je pense que ça vaut le coup de les pointer, si ce n'est dans le détail, dans les différentes difficultés, obstacles sur leur route vers une intégration véritable dans notre pays.
Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on a deux types de personnes qui migrent. Et d'ailleurs, ça correspond à deux permanences différentes à la CIMADE. Il y a une permanence qui est consacrée aux demandeurs d'asile. Donc, ce sont des gens qui viennent et qui demandent la protection de la France. Et donc, ces gens-là, ils vont ensuite dans les CADA, ils demandent l'asile et puis...
Parce qu'ils sont menacés dans leur
parce
pays.
Parce qu'ils sont menacés dans leur pays, voilà.
Pour des raisons principalement politiques.
Hein. Voilà. Soit ils sont dans un pays qui est en guerre, soit ils peuvent avoir des raisons personnelles d'être menacés par les mafias ou des femmes qui sont menacées d'excision, de choses comme ça, qui donc arrivent en France et demandent la protection de la France. Donc ça, ce sont les demandeurs d'asile. Et ensuite, il y a des gens qui ne demandent pas l'asile, mais qui sont des étrangers et qui demandent soit à venir travailler, donc il peut y avoir les étudiants, ça fait partie effectivement des gens qui migrent un temps, ils viennent, ils vont faire des études, mais ils ont besoin de papiers, donc ils ont besoin de justifier de leur séjour. Après, il y a des gens qui... Donc tout ce qui n'est pas demandeur d'asile, mais qui sont des personnes étrangères qui souhaitent un temps vivre ou plus longtemps, ou que ce soit le regroupement familial, que ce soit... Enfin, il y a énormément de... C'est difficile de résumer.
Oui, mais on voit bien qu'il y a une typologie, enfin le mot n'est pas adapté, mais on comprend bien qu'il y a différentes sortes de personnes étrangères qui viennent en France et qui relèvent donc, en tout cas, de ces deux grands statuts-là.
Voilà, et donc les statuts et après les demandes sont différentes. Les demandeurs d'asile, ils doivent faire un récit sur ce qui leur est arrivé. Et ensuite, ils vont à l'OFPRA, ils sont convoqués pour... on leur accorde ou on ne leur accorde pas. Alors,
l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, sauf erreur.
Ouais, bravo. Alors donc, on revient à la question, c'était quoi ?
Non, mais voilà, c'est pour voir un peu les différences les difficultés principales.
Les grandes difficultés, c'est d'arriver à ce que les gens fassent respecter leurs droits, parce que les gens ont des droits, ou au moins avoir la possibilité de demander. Aujourd'hui, là, une des plus grandes difficultés pour les gens qui sont en situation irrégulière, ou les gens c'est d'avoir un contact, un rendez-vous avec la préfecture, ne serait-ce que pour déposer un dossier. Pour faire la demande, parce que...
Commencer
les démarches administratives. De plus en plus, les démarches administratives sont dématérialisées. Donc, ça veut dire qu'il faut...
On ne va pas au guichet, on ne prend pas son ticket pour faire la queue, comme autrefois, ou comme on l'a connu les uns et les autres. On s'inscrit en ligne sur un site Internet pour...
On ne s'inscrit pas, ce serait trop simple. On va sur un calendrier et on essaye de prendre un rendez-vous.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Mais ça ne marche pas. C'est très compliqué, donc on fait... Oui, Marie ?
Non, oui, mais c'est le résultat un peu des annonces de M. Retailleau. Aujourd'hui, il y a un vrai blocage au niveau des préfectures, puisque c'est ce qu'on a demandé au préfet via des circulaires, de freiner la régularisation. Et donc, aujourd'hui, on a des situations complètement aberrantes qu'on n'avait pas avant, où on a des personnes qui sont en situation régulière depuis longtemps, qui ont un emploi, qui ont un logement... Et qui payent des impôts, qui sont tout à fait insérés, et qui n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour parce que les guichets de préfecture refusent de les recevoir. De fait, sont fermés. Il y a une énorme pression sur les préfets aujourd'hui pour arrêter les régularisations. Donc, on a des personnes qui sont complètement en emploi, en logement, etc., qui vont perdre leur emploi, qui vont perdre leur logement. Parce que, tout simplement, elles n'arrivent pas à renouveler leurs papiers. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau.
Donc, ça veut dire qu'à l'arrivée, ça augmente mécaniquement le nombre de personnes en difficulté avec cette application des consignes données par le nouveau ministre de l'Intérieur. Justement, on y vient à cette question. Ça serait, comment dire, passer à côté de ne pas évoquer ces questions nationales. Alors, depuis l'arrivée de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, de nouvelles atteintes aux droits des migrants, on vient de le voir, et des réfugiés sont en vue. Il a envoyé au préfet une circulaire, une première décision, leur demandant, je cite, « des résultats pour la reprise du contrôle de l'immigration ». Marie Moretto, vous en avez donné des exemples. Il a annoncé une nouvelle loi qui reprendait les dispositions annulées au début de l'année par le Conseil constitutionnel, parce que c'est contraire à la Constitution. Alors, que peut-on penser, Nicole ou Marie, de cet état de fait dans lequel nous nous trouvons depuis quelques mois ?
Moi, je pense que M. Retailleau est notre nouveau ministre, qu'il a besoin de se faire entendre et qui dit des choses qui n'ont pas de sens. Moi, non, je pense
que. Oui, c'est bon mot, c'est pas le vôtre, qui sont ineptes, quoi.
Voilà, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle loi qui est déjà très répressive, qui est l'essentiel de cette loi, c'est de la répression. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que l'immigration ou que les immigrés peuvent être un atout pour la France. Ouais. Et ça n'y est pas dans les lois, ça n'y est pas. La seule chose qu'il y avait, c'était la régularisation par le travail, mais de fait, c'est pratiquement impossible de se faire régulariser par le travail, parce que pour se faire régulariser, il faut prouver qu'on travaille alors qu'on n'a pas le droit de travailler. Et si vous prouvez que vous êtes en train de travailler, l'employeur est condamné. Donc, si vous voulez, les conditions sont tellement difficiles qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible.
La porte est fermée.
Donc, ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas. Les gens continuent à travailler, mais ils travaillent au noir. Ça veut dire qu'il y a des secteurs entiers de l'économie où il y a des gens qui travaillent, que ce soit dans la restauration, dans l'aide à la personne,
dans
le bâtiment,
dans
l'agriculture. C'est de plus en plus difficile, mais ces gens, on en a besoin, et ils sont là, et ils vont rester. Mais ils vont rester sans papier, sans titre. Donc,
c'est-à-dire
qu'on
entretient la précarité, en définitive.
Oui.
Il y a les besoins que vous avez
dit,
qu'un certain nombre d'organisations patronales portent en disant « il nous faut de la main-d'œuvre, on ne l'a pas, elle est à portée de notre main, elle est chez nous ». Mais il faut qu'elle travaille dans les conditions normales. Et ce qui semble être une évidence n'est pas reconnu comme tel.
Non, parce qu'il faut absolument qu'on lutte contre l'immigration. C'est ça, l'obsession de Retailleau et des autres. C'est ce discours-là, c'est un discours. Mais dans les faits, ça ne se fait pas comme ça. Enfin, Marie.
Non, mais j'en profite juste pour dire qu'il y a eu une émission de Cache Investigation qui est passée
jeudi dernier,
que j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à venir la regarder, parce que ça montre bien ce qu'on est en train de discuter. C'est cette inadéquation complète entre finalement et les préoccupations des Français, vous en avez parlé, mais les réalités aussi économiques. Aujourd'hui, tous les économistes sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas se passer des migrants dans certains secteurs, qu'on en a fortement besoin et que c'est plutôt une chance pour l'économie. Enfin, pas plutôt, c'est vraiment une chance pour l'économie. Donc, c'est très, très bien expliqué. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais on attend notamment la liste des métiers en tension depuis longtemps.
Alors, ça, c'était un élément de la loi donc, qui a été votée de janvier dernier,
oui,
qui devait fournir une liste dans laquelle il y avait un allègement des contraintes de l'accès à l'emploi, en gros, considérant que les besoins d'emploi à occuper étaient très forts, de l'avis commun des économistes, des entreprises et du gouvernement. Cette liste n'est toujours pas produite, là, 10 ou 11 mois après la loi.
Non, mais aujourd'hui, il faut savoir que c'est un espace... Parler de façon apaisée des questions d'immigration, c'est extrêmement difficile. Et je pense que les politiques ont assez peur de s'engager là-dedans, alors qu'effectivement, il y a réellement des réalités économiques où on aurait besoin d'avoir ce débat de façon apaisée. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on est prêt, pour des questions complètement démagogiques et politiciennes, à fouler... à la fois des grands principes que nous avons, notamment démocratiques, mais aussi des réalités de base économique.
Qui ne sont pas que dans des domaines qui sont aussi dans des domaines comme la médecine. La médecine, les médecins, regardez.
Le nombre de médecins qui
étrangers.
Qui sont dans les hôpitaux français,
étrangers. Le nombre d'étudiants, l'immigration principale en France, ce sont les étudiants. Mais les étudiants, c'est extraordinaire d'avoir des gens de tous les pays qui viennent étudier en France et qui rentrent ensuite chez eux et qui amènent cette culture, cette connaissance. Comment un pays peut-il se couper comme ça de tous les pays qui sont autour? C'est pas possible. On ne peut pas se couper du reste du monde.
Alors, ce que vous indiquez là, bon, a été résumé ces derniers temps par une formule déjà en usage. L'immigration est une chance pour la France, et la version contraire, l'immigration n'est pas une chance pour la France, n'est même un mal dont il faudrait se défaire. Alors, j'insiste sur un point, vous l'avez dit l'un et l'autre, c'est la question des droits. Dans l'état actuel de la législation, y compris avec les reculs que la loi Asile-Immigration de janvier 2024 a produit, il y a des droits, c'est-à-dire c'est des aspects de l'accompagnement des personnes auxquelles tous les Français ont droit, les droits sociaux notamment. Donc ça veut dire que ce n'est pas la réponse soudaine à quelque chose qui ne serait pas organisé. Il y a une structure législative réglementaire qui donne le socle de ces droits. Alors, ces droits, ils sont peut-être rognés. On pourrait espérer qu'ils soient étendus, mais en tout cas, c'est ça. Ce sont des droits.
Le problème, c'est l'accès aux droits.
Il y a deux problèmes. C'est l'accès aux droits et le grignotage constant des droits également. Aujourd'hui, on enferme en rétention. Enfin, cette année, on a enfermé des Palestiniens en rétention en vue de leur expulsion, des Ukrainiens en vue de leur expulsion, des Afghans, alors qu'on sait les problématiques avec les talibans, etc. Donc, aujourd'hui, c'est l'expulsion à tout prix. C'est la non-régularisation à tout prix. Et on bafoue les droits les plus élémentaires, à savoir le droit à la dignité, le droit à la vie, tout simplement, quand on envisage d'expulser des personnes dans des pays en guerre, où c'est la Cour européenne qui est finalement à l'encontre de ce qu'a dit le juge français, va libérer ces personnes. On se rend bien compte qu'on est passé à un niveau complètement délirant du traitement de ces thématiques-là.
Alors, parmi les exemples de ces menaces sur les droits, il y a l'AME, l'aide médicale d'État, qui est régulièrement mise en cause. Alors, on va essayer de mettre fin aux approximations et aux manipulations en la matière. Alors, Marie Moretto, travaillant sur les faits, qu'est-ce que c'est que ces TME? Comment peut-on, les personnes peuvent en bénéficier, hein, et surtout, parce que ça a été autour de ça que le débat public et politique s'est cristallisé, quelle part du budget de la sécurité sociale cette AME représente-t-elle?
Alors, l'AME, c'est une prestation d'aide sociale qui est soumise à des conditions très, très restrictives. Hein. Pour l'obtenir, il faut avoir vraiment des ressources très basses, ne pas avoir de titre de séjour, etc. Et c'est vraiment l'accès à des soins de base. Donc, contrairement à ce qu'on a pu entendre, il y a énormément de soins qui sont exclus. Hein. C'est vraiment les premiers soins, presque les soins d'urgence, on va dire. Ça représente aujourd'hui moins de 0,50% du budget de l'assurance maladie. Donc, c'est extrêmement dérisoire.
C'est-à-dire 0,5%, je répète.
Oui, ça donne, pardon, voilà. 0,5%, oui. Excusez-moi. Voilà. 0,5%
du budget. Ça fait 5 pour 1000.
Voilà, c'est ça, du budget de l'assurance maladie. Et c'est environ 460 000 bénéficiaires en 2023. Donc, c'est ridicule, c'est négligeable. Mais ça montre bien cette obsession d'aller... Pour des fins démagos, parler de tout et de n'importe quoi. Ça ne devrait même pas être un sujet, ce sujet-là. D'autant plus que couper l'AME, c'est venir emboliser les urgences, c'est venir, on l'a vu avec le Covid. Ce n'est pas possible d'avoir une partie de la population qui n'est pas soignée aujourd'hui sur notre territoire.
Oui, parce qu'il y a des effets...
Il y a des effets qui sont néfastes pour l'intégration.
Sur la santé et sur le coût.
Tout à fait.
Sur le coût de la sécu. Très bien. Alors, le temps file. Alors, ce que je vous propose, on va dire un mot... de ce rendez-vous là, du festival Migrants Scène, Migrants apostrophe Scène pour les auditeurs, que la CIMAD organise. Pourquoi? Quels sont les principaux rendez-vous, Nicole Chastanier?
En fait, Migrants Scène, c'est un festival national qui est un temps. C'est un temps que tous les groupes locaux en France
organisent.
Il n'y a pas un lieu comme ça, mais nous, ici à Montpellier, c'est essentiellement, ce sont des films. En partenariat avec le cinéma Utopia.
Donc, dessiner-débat.
Dessiner-débat.
Une projection suivie d'un débat.
Voilà. Et depuis l'an dernier, on organise une grande fête. Là, cette année, c'est le 22 novembre. Un temps très fort où il y a, Marie va en reparler, il y a une exposition, il y a un débat avec Augier, je vais oublier son prénom.
Michel
Agier. Et une soirée
festive.
Voilà. C'est autant
passe...
pour nous que pour tout le monde. Quoi. C'est un temps de...
Voilà. Bon, prendre un peu de plaisir. Donc, ouais. Ça se passe à l'altruisme, ce rendez-vous. Et puis, la programmation du ciné-débat jusqu'au 8 décembre. Alors, un mot quand même sur ce rendez-vous prochain, là. Nicole vient d'indiquer.
Sur l'altruisme, effectivement, donc c'est le 22 novembre. À partir de 16h, il y aura une expo photo avec un vernissage. Et donc, il y aura nos salariés du Centre Frantz Fanon qui viendront présenter cette exposition. Puisqu'il faut savoir que l'idée, c'est, comme je vous le disais, comme on le fait à Béziers, c'est de travailler avec les publics qu'on accompagne pour qu'eux-mêmes puissent porter leur parole et sensibiliser leur expérience.
C'est cette conjonction, cette confluence ou ce mélange-là que le festival s'efforce
de
traduire.
Oui, on s'efforce de donner la parole aux premiers concernés. Et donc, c'est ce qu'on a fait à travers cette expo photo. C'est ce qu'on avait déjà fait l'année dernière, puisqu'on avait fait cet événement l'année dernière sur les bidonvilles. On avait invité des personnes des bidonvilles. Il y avait aussi une expo photo sur les bidonvilles qui était là. Il y aura d'ailleurs une autre soirée au quartier généreux le 27 novembre sur la thématique des bidonvilles, qui sera là portée par les salariés de la mission bidonville. Et donc l'idée, c'est un peu de à la fois donner à voir ce qu'on fait, notre travail, et puis les publics qu'on accompagne, leur donner la parole pour venir, toujours pareil, déconstruire des préjugés, prendre un peu la parole, nous, sur ces thématiques-là, puisque la parole, elle est souvent donnée, malheureusement, aux tenants de l'extrême droite.
Après, juste une chose, c'est qu'on a deux rendez-vous en décembre, le 14 décembre et le 18 décembre. C'est la journée mondiale des migrations.
Oui.
Donc cette année, il y aura une manifestation le 14 parce que ça tombe un samedi. C'est le 18, ça ne tombait pas. Mais il y aura Montpellier, toutes les associations.
Un grand rendez-vous le 18 décembre.
Un rendez-vous. On ne sait pas encore ce que c'est, mais ça va être super.
Donc, à laquelle vont appeler un grand nombre d'organisations.
Oui.
Notamment celles où on ne l'a pas évoqué, qui sont fédérées, regroupées dans ce qu'on appelle les EGM, les États généraux d'immigration, où les associations de toutes sortes qui œuvrent au quotidien en faveur de l'accueil et de l'intégration des migrants se retrouvent donc le 18 décembre. Eh bien, rendez-vous aux auditrices, aux auditeurs sur ces deux rendez-vous qui ont été indiqués. Merci à vous, mesdames, et une prochaine fois.
Merci.
Au revoir.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.